Radio Okapi. Journal présenté par Grace Hamzati.
Lancé officiellement hier par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et placé sous le thème « Amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité », la rentrée scolaire 2023-2024 est effective, notamment à Beni, au Nord Kivu. Drame de Goma, le gouvernement rappelle à Kinshasa le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, pour consultation et suspend deux officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a officiellement lancé hier lundi la rentrée scolaire 2023-2024 à l'école Moulekwa-Nsampu, une première école publique qui a ouvert ses portes cette année au quartier Tchad dans la commune de Mongafula ici à Kinshasa. Le professeur Tony Mwaba a placé cette année scolaire sous le thème « Amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité ». À Beni, au Nord Kivu, la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu dans tous les établissements scolaires publics et privés, comme le prévoit le calendrier scolaire. Des élèves et écoliers de la ville ont repris le chemin de l'école, contrairement aux rumeurs qui ont circulé à travers les réseaux sociaux annonçant les boycotts de cette rentrée par certains syndicats des enseignants. Si, dans certains établissements, on a procédé au nettoyage des salles de classe, dans d'autres, cependant, les cours ont déjà commencé. Guylaine Kassassia a fait la ronde de certaines écoles et nous propose ses reportages.
Ici, nous sommes à l'école primaire d'application Kilewe, une école conventionnée catholique. À 7h du matin, la plupart des élèves étaient déjà dans la cour, accompagnés de leurs parents. Toutes les salles de classe sont ouvertes. Élèves et enseignants y sont pour les débuts des cours à 7h30. C'est par exemple la 3e année B où nous conduit le directeur adjoint. Il ne tarde pas à demander aux élèves de déclamer une récitation de la 2e année pour vérifier, dit-il, leur niveau d'assimilation de la matière apprise l'année précédente. Mais déjà, ils apprennent les mathématiques pour cette première journée.
Mathématiques. Les livres de mathématiques portent le nom de
Genovique Mundo.
Quelle classe?
3e année primaire.
Pour certains élèves, c'est une retrouvaille. C'est le cas de Joannel Kambalelu-Kenge, de 6e année à l'école primaire d'application de Beni, qui appelle au même moment ses promotionnaires à l'assiduité au cours.
Je suis avec mes amis, je suis très content de les revoir. Nous allons tous réussir. Je veux étudier bien et écouter la matière.
Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
De son côté, pour préparer cette rentrée scolaire, l'UNICEF a collaboré avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, les autorités administratives et éducatives ainsi que leurs partenaires pour mobiliser les parents et les communautés afin d'envoyer tous les enfants, filles et garçons à l'école et à assurer leur maintien tout au long de l'année scolaire. Cette campagne d'appui à la rentrée scolaire cible près de 27 millions d'enfants déjà scolarisés ainsi que près de 7 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école, affirme l'UNICEF dans un communiqué publié hier lundi. Pendant ce temps, en Ituri, la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique des Djougou 2 dans les territoires des Djougou est en difficulté. Depuis plus de 3 ans, une quinzaine d'écoles de ce territoire fonctionnent à mi-temps dans la sous-division voisine en raison des conflits qui persistent. Alors que la rentrée scolaire a été lancée hier, le responsable de l'EPST Djougou 2 déplore le fait que les conditions sécuritaires ne sont toujours pas améliorées pour permettre aux élèves d'étudier dans leur milieu d'origine. Des précisions avec Marine Mamagira.
En territoire de Djougou, les conflits qui perdurent ont changé les modes de fonctionnement de certaines écoles. L'afflux des déplacés, parmi lesquels enseignants et élèves, a poussé les autorités à réorganiser les cours. C'est le cas de la sous-division des écoles primaires, secondaires et techniques de Djougou 2, en territoire de Djougou, où depuis plus de 3 ans, une quinzaine d'écoles fonctionnent à temps partiel dans la sous-division voisine, l'EPST Djougou 1. Certains suivent les cours le matin et d'autres les après-midi. Ces élèves déplacés ne peuvent pas retourner dans leur localité, leurs écoles ayant été détruites ou incendiées par les groupes armés actifs dans le secteur de Walendu-Pitsi. Ces écoles vont une nouvelle fois débuter l'année scolaire 2023-2024 en déplacement, ce qui inquiète le responsable de cette sous-division qui se demande combien de temps cette situation inconfortable va encore durer. Dabou Faustin lance un appel au gouvernement.
Il n'y a même pas de bâtiments, tout a été détruit. Ce que nous avons toujours réclamé, c'est la paix. Pour ces écoles, écoles dont je parle, c'est ça le problème.
Pour rappel, plus de 230 écoles ont été incendiées sur l'ensemble de la province de l'Ituri, selon le rapport d'évaluation de l'année dernière. La plupart se trouvant dans les territoires de Djougou, Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Par ailleurs, cette rentrée scolaire est effective mais timide dans certaines écoles de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Si dans certaines écoles, les cours ont bel et bien commencé en ces premiers jours de la rentrée des classes, ce n'est pas le cas dans d'autres écoles où plusieurs élèves ne se sont pas présentés. Constat fait dans quelques écoles visitées hier par notre reporter et par le gouvernement provincial du Kwilu, qui invite d'ailleurs les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Irène Mbouma.
Dans certaines de ces écoles que nous avons visitées l'avant-midi de ce lundi, notamment les complexes scolaires Saint-José-Maria Escriva, La Borne et Santa Rosa, toutes des écoles privées, les enseignants et les élèves ont répondu présents à l'appel du ministre national de l'EPST pour la rentrée scolaire 2023-2024. À Maria Escriva, par exemple, les enseignements ont bel et bien démarré, comme le témoigne M. Miyuku Gaël.
Tel que vous voyez là, nous sommes en train de dispenser déjà les cours. La rentrée scolaire est effective. Pour preuve, je suis déjà dans la salle de classe. L'annonce disait que la rentrée sera pour le 4 septembre et c'est les jours J.
À l'EPE Papa Movoto, l'une des grandes écoles publiques de la ville, comptant plus de 800 élèves, nous n'avons trouvé qu'un groupe d'élèves à l'extérieur et la quasi-totalité des enseignants. Wawa Izenteya est le directeur de cet établissement scolaire.
Nous avons fait le nettoyage des salles de classe, de la crine. Demain, nous allons commencer directement le cours, que les enfants viennent nombreux.
Pour sa part, le ministre des ITPR du Kwilu, Jean Malombo Ngompasi, gouverneur intérimaire qui a fait la ronde d'au moins 5 écoles de la ville de Bandundu ce lundi, parle d'une rentrée scolaire effective mais timide. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Rentrée scolaire timide également, c'est lundi à travers plusieurs villes du Grand Équateur. Bon nombre d'élèves ont fréquenté les écoles privées où les enseignements ont débuté. Cependant, l'ambiance a été peu mouvementée dans les secteurs publics, notamment à cause des communiqués contradictoires des syndicats appelant les uns au boycott et les autres à soutenir le gouvernement et la présente rentrée. Plus de détails avec Paul-Richard Malengela.
En Bandakan, ce lundi, autour de 7h30 locale, les avenues n'ont pas connu l'engouement habituel de la rentrée scolaire. Les élèves en uniforme étaient peu nombreux. Toutefois, certaines écoles publiques et surtout privées ont ouvert les portes et démarré les enseignements. Cette timidité est certes consécutive aux difficultés des parents, mais bien plus à la confusion entretenue par l'appel du CIECO à la grève d'un mois. Alors que le Sénécat, le CINEP et la COSEL, respectivement syndicat des enseignants catholiques, protestants et libres, avaient appelé à la rentrée effective. Par ailleurs, à Kungu, dans le sud d'Ubangi, les enseignants, sans salaire depuis deux mois, se sont montrés indifférents à la rentrée scolaire. Le coordinateur de la société civile Voix des Sans-Bouches Congo, Emmanuel Bamoloko, la témoigne.
Nous avons accusé déjà un retard de deux mois de paiement. Ça donne des difficultés à que les enseignants puissent faire retourner leurs enfants à l'école. Les enseignants aussi ne sont pas tellement contents suite au non-respect des engagements du gouvernement. Ça a créé aussi une timidité avec de nouvelles unités au niveau du primaire.
Enfin, la rentrée scolaire a été effective à Guadolité, indique des témoins, en dépit des difficultés des parents à doter leurs enfants de fournitures scolaires. Entre-temps, la pluie a gâché la fête à Bumba dans la Mongala, alors que tout le monde s'était préparé à une rentrée effective ce lundi matin. Bondaka pour Chamaningue, la Radio Okapi.
Parlons à présent de ces tueries de Goma. La commission interministérielle, instituée le 1er septembre 2023 par le président de la République, prend certaines mesures après s'être entretenue avec diverses forces vives et avoir auditionné les différentes autorités civiles et militaires de la province du Nord Kivu. Parmi ces mesures, le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour consultation, la suspension des deux officiers supérieurs de la police nationale congolaise et leur rappel à Kinshasa. Il s'agit du commissaire supérieur principal Bongo Wifema José, commandant en charge des opérations de la ville de Goma, et du commissaire supérieur Luna Kimanga Martin, commandant en charge des renseignements dans la ville de Goma. La prise en charge des obsèques des victimes par le gouvernement, l'organisation des obsèques de l'agent de police principal Kipapa Safari, sauvagement abattu par les membres de la secte de Wazalendo, la prise en charge des soins des blessés par la province du Nord Kivu, l'identification et la fermeture de toutes les églises non en règle avec la loi. Ces décisions sont contenues dans un communiqué officiel rendu public lundi par le ministère de la Communication et Médias. Et puis, sur place à Goma, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti hier, bien que la circulation des motos, taxis et voitures ait connu une évolution progressive en début d'après-midi. Cette situation est consécutive aux appels lancés depuis quelques jours à une journée ville morte pour dénoncer les tueries des civils commises lors de la répression sanglante des manifestants le 30 août 2023. Des mouvements citoyens et autres collectifs de la place réclament que justice soit faite à toutes les victimes de ces tueries, mais également réclament un enterrement digne pour chacune des victimes ainsi que la prise en charge des blessés. Sifa Maguru.
La ville de Goma s'est réveillée dans un climat timide. La majorité de la population est restée à la maison, observer la situation. La circulation était timide le matin et a évolué au courant de la journée et des barricades observées sur certaines artères de la ville ont été dégagées sur certains axes. La rentrée scolaire n'a pas été effective à Goma car aucun parent n'a envoyé son enfant à l'école. Le reste des activités socio-économiques sont restées fermées à part les petits marchés dans les quartiers populaires. Quelques tirs de sommation ont également été entendus dans la matinée, mais aucun incident majeur n'a été signalé. Rappelons que la tension n'a pas baissé au sein de la population depuis les événements du 30 août dernier lors de la répression sanglante des manifestants, notamment un groupe d'adeptes d'une secte, ce qui a tourné au drame au quartier Nyabushongo Kiziba 2. Depuis lors, des voix s'élèvent pour dénoncer l'usage excessif de la force par les services de sécurité, soit déféré devant la justice. Goma, Sifa Maguru. Radio Okapi.
Concernant toujours ces tueries de Goma, la troisième audience de l'affaire présumée Wazalendo s'est poursuivie hier au tribunal militaire des garnisons de Goma. Par contre, le procès en flagrance des deux autres officiers de l'armée et plusieurs autres militaires va commencer aujourd'hui à l'auditorat supérieur du Nord Kivu. Pour sa part, la coalition Lamuka dirigée par Martin Fayulu dit ne pas croire à l'enquête diligentée par le gouvernement en rapport avec ces tueries qui ont eu lieu la semaine dernière. Prince Epengue, porte-parole de cette plateforme de l'opposition, l'a dit ce lundi à Kinshasa. Tout en condamnant ces drames, il estime que cette situation devrait donner lieu à la démission de plusieurs ministres, notamment celui de la Défense, de l'Intérieur et du gouverneur militaire du Nord Kivu. On écoute Prince Epengue au micro d'Alain Irunga.
Lamuka appelle le peuple congolais à se mobiliser pour rendre hommage à tous les Congolais qui ont été sauvagement tués à Goma. Lamuka rappelle que l'enquête qui est entamée actuellement par les injonctions du ministre de l'Intérieur et de la Défense est nulle et non avenue dans la mesure où elle n'engage que le gouvernement. Nous n'avons pas confiance au gouvernement de la République. Nous appelons le peuple à rendre hommage dans toutes les provinces à nos frères et sœurs de Goma, une province du Nord Kivu qui est déjà endeuillée par le M23. Comment expliquer que l'armée puisse ouvrir le feu contre ses propres compatriotes? Nous voudrions savoir qui a donné l'ordre à l'armée congolaise de s'en prendre aux Congolais.
Justice. Fin du procès de l'assassinat de l'homme d'affaires Simba Ngezayo. 125 personnes sur 144 sont acquittées par la cour militaire de Kinshasa Gombe à la prison militaire d'Endolo. 9 sont condamnés à différentes peines d'emprisonnement. L'arrêt a été rendu vendredi dernier. Il décharge les 125 prévenus d'associations de malfaiteurs, meurtres, assassinats et détention d'armes, faute de preuves. Arrêt salué par leur conseil. Cependant, un de leurs avocats fustige le fait que ces prévenus se retrouvent abandonnés à Kinshasa et ne savent plus retourner chez eux dans l'est de la RDC alors qu'ils avaient été arrêtés et détenus depuis 2020 par la justice militaire qui les acquitte sans aucune indemnisation. Maître Peter Ngomo est au micro de Jeff Ngoy.
À l'audience du vendredi passé, la cour militaire de Kinshasa Gombe s'est prononcée dans les dossiers ministère public parti civil Ngezayo contre le colonel Shima et consorts et sur les 134 prévenus qui avaient été poursuivis par rapport à cela, il n'y a eu que 9 condamnations. Donc il y a 125 prévenus qui ont été acquittés par la cour militaire de Kinshasa Gombe. Mais non, les grands problèmes qui se posent, c'est par rapport à ces prévenus qui ont été acquittés. Parce que nul n'ignore que tous ces prévenus sont venus de Goma, Calais, dans les sites qui... Comment est-ce qu'ils vont regagner chez eux? C'est pourquoi je profite de ces micros pour lancer un SOS en direction de toutes les autorités compétentes, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Défense et autres, même la MONUSCO, pourquoi pas, pour qu'on puisse quand même aider ces compatriotes-là à regagner leur coin d'où ils venaient.
Rappelons que l'homme d'affaires Simba Nguezayo était assassiné le 3 novembre 2020 à Goma, dans le Nord Kivu. Sitôt après, 138 personnes au départ étaient arrêtées et détenues longtemps en Ndolo avant de débuter le procès une année après. Et puis, l'audience publique au procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo a nouveau renvoyé au 25 septembre prochain. Cette remise, sollicitée par la défense de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, consiste à permettre à cette partie d'accéder à son dossier. Le greffe de la Cour constitutionnelle a été attaqué par la défense pour n'avoir pas permis l'accès à plus de 6000 pièces du dossier, pendant que les autres parties de la défense, Tedeo Gracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, et Christo Grobler, patron de la firme sud-africaine Africom, ont compulsé 4000 pièces de leur dossier. Dans le souci du respect des droits de la défense, le juge constitutionnel a donc accordé cette remise. Rappelons que l'ancien premier ministre est poursuivi avec ses co-accusés par la justice pour un détournement présumé de plus de 250 millions de dollars dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo.
Actualité internationale.
Au Gabon, 5 jours après le coup d'État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligbema, qui dirige le comité pour la transition et la restauration des institutions, a prêté serment hier à Libreville sur une charte de la transition en tant que président de la transition du pays.
L'invité.
Après la répression sanglante du mercredi dernier à Goma, qui a coûté la vie à plusieurs personnes appartenant à une secte se réclamant membre de Wazalendo, des réactions continuent d'affluer. Parmi les plus récentes, il y a celle de Jean-Claude Katende, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et président de l'Association africaine des droits de l'homme, qui non seulement déplore ce qu'il qualifie d'actes extrêmement graves de la part de certains militaires, mais aussi exige des vraies enquêtes pour identifier les exécutants et les vrais commanditaires de ces tueries des civils. Maître Jean-Claude Katende répond aux questions de Guy Maté.
Bonjour Maître Jean-Claude Katende.
Bonjour.
Comment vous analysez la répression de certains éléments des FRDC contre des présumés adeptes d'une secte appelée Wazalendo qui attendaient manifester contre la présence de la MONUSCO, de la force de l'AIAC et de certaines ONG internationales?
Je dois franchement vous dire que la répression qui a été faite m'a beaucoup attristé, surtout que nous sommes dans un régime dont le président de la République vient d'un parti qui a toujours lutté pour que les droits humains soient respectés. Mais avant de répondre profondément à votre question, je voudrais rappeler que nos confrères, nos frères, nos sœurs ont été fauchés par la garde républicaine. Et la mission de la garde républicaine, c'est de protéger le président de la République, les membres de sa famille et leurs biens. Et dans le cas d'espèce, il faut considérer que la garde républicaine a été à un endroit qui ne relève pas de sa mission. Parce que le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre constitutionnellement relèvent de la police nationale congolaise. Et donc il est important, parce que la garde républicaine a été à un endroit qui ne relève pas de sa mission, a accompli une activité qui ne relève pas de sa mission, que nous puissions savoir qui a donné l'ordre à la garde républicaine de faire autre chose que de garder le président de la République, les membres de sa famille et leurs biens. Et donc, il faut considérer que ce qui est arrivé est extrêmement grave, parce que les Wazalendo n'étaient pas sur la voie publique. Ils étaient en prière dans leur église et que une unité de l'armée congolaise descende dans une église pour tuer les Congolais, c'est quand même grave. Et nous, en tant que organisation de droits de l'homme, nous souhaitons que la lumière soit faite, pas de la manière dont on est en train de le faire aujourd'hui dans la précipitation. Et nous ne voulons pas que ça soit comme la répression des Bakata Katanga ou d'autres actions dans lesquelles la garde républicaine a été impliquée, où on a sanctionné des criminels secondaires, mais les vrais commanditaires, on les a jamais identifiés et punis.
Aujourd'hui, dans cette même ville de Goma, on signale des personnes et des familles ayant perdu leurs biens et leurs maisons incendiées par ces militaires. Et à votre avis, quelle doit être l'attitude du gouvernement à l'endroit de ces familles?
L'attitude du gouvernement, je pense que les faits tels que décrit M. Guy Maté devraient conduire le Premier ministre, le vice-premier ministre à la Défense, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur à démissionner de leurs responsabilités. Parce que les faits sont graves, ça c'est en fait la première attitude que le gouvernement devrait adopter devant ce carnage. La deuxième attitude à faire, c'est d'organiser une enquête sérieuse. Je dénonce l'enquête qui a été faite dans la précipitation et qui est de nature à mettre de côté d'autres personnes qui pouvaient être impliquées dans ce qui est arrivé. Et la troisième chose, c'est que le gouvernement doit pouvoir prendre des dispositions, non seulement pour venir soutenir ces familles qui sont déplorées, mais les mettre dans les conditions où ils peuvent se sentir que nous avons un gouvernement qui comprend ce qui est arrivé, qui est prêt à punir les personnes qui sont impliquées, mais aussi à protéger les personnes qui sont victimes des actes de l'armée.
D'après plusieurs sources, beaucoup de familles n'ont toujours pas retrouvé les corps de leurs membres de famille et d'autres n'ont pas encore accès aux blessés et cela semble alimenter des rumeurs d'enterrement des corps de manière discrète. Que faut-il faire pour que ces familles retrouvent les corps de leurs membres disparus?
D'abord, ce que vous venez de dire démontre qu'il y a eu cette intention de pouvoir cacher la vérité en ce qui concerne le nombre de personnes décédées. Aujourd'hui, cela expliquerait pourquoi certains membres de famille n'ont pas retrouvé leurs morts. Et l'État doit pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui ont été tuées, leurs corps soient retrouvés et qu'on permette à leur famille de pouvoir organiser les deuils. Quant à ce qui concerne les blessés, il est important que les membres de famille aient accès aux blessés pour leur apporter le soutien moral dont ils ont besoin, au-delà du traitement médical ou au-delà des soins de santé qui leur sont administrés.
Maître Jean-Claude Katende, merci beaucoup.
Merci.
Notre invité, Maître Jean-Claude Katende, s'entretenait avec Guy Maté. Et c'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rougmouchins et mis en onde par Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Nsoalo. Merci de l'avoir écouté.